Aujourd'hui, je voudrais aborder le troisième volet de la série que j'avais commencé sur l'amour de Dieu. Donc le premier volet, c'était en résumé, l'amour de Dieu, c'est Dieu a manifesté son amour et il nous demande juste de le recevoir, de l'accueillir, d'y croire. Le deuxième, c'était nous vivons cet amour de Dieu avec chacun, avec tous les saints, nous dit l'Épître aux Éphésiens, de connaître tout cet amour, c'est les dimensions de l'amour, nous sommes appelés à le connaître tous ensemble, pour nous enrichir ensemble. Le troisième point que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu et ses commandements. Et ses commandements. À partir du texte de Jean, chapitre 15, versets 9 à 11. Jean 15, versets 9 à 11. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, un texte qui relie le fait d'aimer Dieu et d'obéir à ses commandements, d'obéir à sa volonté, d'obéir à ce qu'il nous demande. Ce que Jésus résumait dans le sermon sur la montagne, avec l'histoire des deux maisons bâties, une sur du roc et l'autre sur du sable. Et celle qui a tenu bon devant les intempéries, celle qui était bâtie sur le roc, Jésus nous dit, voilà, vous êtes comme ça si vous pratiquez ce que je vous ai dit. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit d'obéir. Remarquez, obéir, c'est déjà d'en croire, hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose qui peut nous paraître paradoxal. Alors, est-ce que l'amour de Dieu est gratuit? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il nous aime plus si on est obéissant? Est-ce qu'il nous aime moins si on est désobéissant? Mais c'est un petit peu tout ça, parfois, qui peut nous troubler. Alors, on va voir que les choses sont en fait très simples. Le contexte, c'est ce discours de Jésus suit son discours sur la vigne. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et si vous ne demeurez pas attaché à la vigne, ben vous allez sécher, vous allez mourir. Et donc le mot-clé que l'on retrouve dans ces passages, c'est demeurer, rester, habiter. C'est 12 fois dans ce passage du verset 1 à 11, dans tout ce passage-là, 12 fois. Cette insistance va nous encourager à vivre en permanence dans la sphère de l'amour de Dieu. Habiter vraiment dans l'amour de Dieu. Vous savez, de quelqu'un qui est un peu à l'ouest, on dit il ne sait plus où il habite. Eh bien, nous sachons où nous habitons. Verset 9, je vais faire une progression à partir de tous ces versets. Verset 9, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Voilà, reprend le fait de rester, de demeurer attaché à la vigne et donc à l'amour de Dieu, puisque c'est ça qui nous a sauvés, c'est son amour manifesté pour nous. L'amour de Jésus pour nous, c'est celui du Père pour Jésus. Je ne sais pas si on se rend compte de l'énormité de la chose, enfin pardon, de la grandeur de la chose. L'amour de Jésus pour nous, c'est celui du Père. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Nous avons reçu l'amour du Père. Et ce n'est pas un amour diminué, parce que nous serions plus ou moins aimables. C'est le même amour. Le même amour. Jean, au chapitre 17, un petit peu plus loin, verset 26, Jésus dira, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Ce même amour, Dieu nous aime du même amour qu'il a aimé le Fils homme. Il y a l'amour du Père pour le Fils Dieu, le Fils, cet amour éternel qui peut nous dépasser. Mais quand Dieu nous dit « J'ai aimé mon Fils homme et je vous aime de la même manière », c'est extraordinaire. Il n'y a pas de petit amour de Dieu et de grand amour. Il nous faut toujours revenir à cet amour qui est le fondement de notre piété, c'est-à-dire de notre vie relationnelle avec Dieu, avec toutes les pratiques que l'on peut avoir, la prière, la lecture de la parole, la communion fraternelle, toutes ces choses-là, et de nos engagements. C'est le fondement de notre piété, de nos engagements. Si je ne sers pas par amour pour Dieu, quelle va être la qualité de mon service ? Je vais servir pour recevoir quelque chose en retour ? Ou par peur, par crainte, parce que si je ne sers pas Dieu, moi qui suis chrétien, mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Une question, hein ? Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Seul l'amour du Père va nous encourager, nous relever, nous permettre de continuer la course. C'est l'amour du Père pour ses enfants. Un amour, je dirais, viscéral, les entrailles de Dieu, un amour viscéral qui ne peut se renier. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. C'est viscéral pour Dieu. C'est pas occasionnel, c'est pas quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est viscéral. C'est tellement grand que nous n'aurons pas de toute notre vie, suffisamment de toute notre vie pour plonger dans cet amour et le vivre. Et d'ailleurs, dans Jean 21, verset 15 à 19, c'est le moment où Jésus, après sa résurrection, va confronter l'apôtre Pierre, qui l'a renié trois fois. L'apôtre Pierre l'a renié trois fois. Lui qui avait juré que si tous l'abandonnaient, lui ne l'abandonnerait pas. Et là, autour du feu, Jésus va replacer Pierre devant le fondement de l'amour. C'est extraordinaire. Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, tu sais que je t'aime. Occupe-toi de mon troupeau, paie mes brebis. Pierre, oui ? Tu m'aimes ? Déjà deux fois ? Oui, tu le sais, Seigneur. Alors, paie mes brebis. Un moment après, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? Moi, je t'aime plus que les autres. Hein. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ? Tu sais tout, Seigneur. Tu sais que je t'aime. C'est extraordinaire. Relisez ces passages en vous mettant à la place de Pierre. Alors, vas-y. Conduis mon troupeau. Maintenant, je te fais confiance. La question qui nous est posée, quand nos vies partent un peu, vous savez, avec le vent, j'en ai un peu ébranlé, tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime, Seigneur. Se maintenir, résider, habiter dans l'amour de Dieu, c'est un exercice quotidien pour que les liens de cet amour ne se relâchent pas au point que nous puissions douter de cet amour divin. C'est quotidien, c'est chaque jour. Chaque jour, notre première pensée en se réveillant le matin, c'est nous rappeler de l'amour de Dieu pour nous, de sa fidélité pendant les nuits, nous dit un psaume, et de l'amour, ben d'ailleurs, psaume 90, verset 14, « Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, pleine allégresse, tout au long de nos jours. » Tous les matins, que le réveil soit douloureux, difficile, que les articulations craquent un peu, qu'on ait du mal à trouver l'équilibre, avant le café, Seigneur, tu m'aimes. Je ressens rien ce matin, mais je sais que tu m'aimes. Verset 10 à 11, on progresse. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Relation amour-commandement. L'amour d'une manière générale, d'ailleurs, n'est pas seulement un sentiment ou une émotion. Ça, c'est l'état amoureux. Là, on ne se sent plus. L'état amoureux, c'est une profonde émotion, un profond sentiment. Mais aimer, c'est d'abord se soucier de l'autre en faisant ce qui est bien pour lui. L'amour n'est pas vécu individuellement, personnellement. Je m'aime bien. Ah, je m'aime bien. Remarquez, quand on peut dire ça, c'est pas mal déjà. Enfin, ça dépend de la réalité que ça recouvre. Mais bon. Mais aimer, c'est tourner vers quelque chose, vers quelqu'un. J'aime le chocolat. J'aime telle personne. Et aimer, ça veut dire je vais chercher à faire ce qui est bien pour lui. Pratiquer la parole de Dieu, faire ce que Dieu nous demande, c'est une joie. La joie d'obéir qui démontre notre amour pour lui, simplement. On peut dire j'aime Dieu et ne pas faire ce qu'il demande. Ça, c'est un amour creux, c'est un amour vide. C'est juste du blabla. On le sait, on l'a tous expérimenté, je pense. Mais nous démontrons notre amour pour Dieu en faisant ce qui lui est agréable. À l'image de Christ qui aimait le Père en faisant toujours ce qui lui était agréable, au point de faire la volonté du Père sa nourriture. C'est le discours dans le passage avec la Samaritaine dans Jean 4. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Ma nourriture, voilà de quoi je me nourris. Est-ce que je me nourris de cette volonté? Est-ce que je suis pénétré de la pensée de Dieu à travers l'Écriture pour au point que si je manque ça, j'ai faim? Est-ce que nous avons faim et soif de la parole de Dieu pour la pratiquer? Pour la pratiquer. Jean au chapitre 8, verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Si on veut expérimenter la présence de Dieu à nos côtés, pratiquons sa volonté. L'attachement au Seigneur se maintient ainsi dans l'obéissance à sa volonté. Et obéir, dans ce cas-là, normalement, c'est un plaisir et pas une contrainte. Alors, j'ai deux questions. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'obéir? Il ne faut pas comme on dit souvent, on entend ça, il ne faut pas se mentir. Bon, on ne se ment pas. Pourquoi est-ce difficile d'obéir? Nous sommes marqués, alors, bibliquement, par la désobéissance d'Adam. C'est une désobéissance. Adam a désobéi à Dieu. Je ne reprends pas ce passage-là, vous pourrez le lire au chapitre 3 de la Genèse. Et cette désobéissance s'est transmise, on peut dire, génétiquement. On l'a dans nos gènes. Nous désobéissons pour marquer notre indépendance, notre soi-disant liberté ou notre singularité. Ne pas faire comme tout le monde. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez là. La désobéissance met en évidence notre désir d'échapper à la main de Dieu, en fait. En fait, c'est ça, profondément. C'est ce que Adam et Ève ont vécu, échapper à la main de Dieu pour décider par eux-mêmes ce qui était bien ou mal. Au contraire de l'obéissance qui nous démarque du péché, de la marche du monde et des exigences de la chair, de la nature humaine, pour nous soumettre à Dieu, pour accepter de l'écouter. De l'écouter. 1 Pierre 1,14 « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. » Comme des enfants obéissants. Alors pourquoi est-ce que c'est facile d'obéir? On n'en parle jamais, mais pourquoi est-ce que c'est facile d'obéir finalement? Il va me dire, ah bon, c'est facile d'obéir? Bien oui. 1 Jean 5:3-5. Toujours chez Jean. Hein. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si je n'ai pas connu la vie nouvelle que Dieu me donne, ce que la Bible appelle aussi naître de nouveau, la nouvelle naissance, si je n'ai pas connu cela, je vais chercher, peut-être parce que j'ai une croyance, je vais chercher à faire la volonté de Dieu, je vais chercher à aimer Dieu. J'ai connu ça, moi. Mais ce sera difficile et on se heurtera toujours à nos limites. Toujours à nos limites. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle qui fait que la vie de Dieu par Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ viennent dans ma vie. C'est une foi qui s'intériorise, qui ne reste pas extérieure, qui est intériorisée et qui nous donne un cœur nouveau. Une mentalité nouvelle. Un état d'esprit nouveau qui fait que tout d'un coup, et ça c'est l'œuvre de Dieu, mes yeux s'ouvrent. Je vois la réalité de ma vie et la réalité de Dieu, la réalité de sa parole. Les choses s'éclairent, clac, lumière, et lux fiat, et la lumière est venue. Ça, c'est l'évangile. Je ne peux pas pratiquer les commandements de Dieu, obéir à Dieu, plaire à Dieu, si je ne suis pas habité par cette vie nouvelle. Et ça, ce sont des obéissances aux commandements témoignent de notre vie nouvelle. Il y a des gens, je me souviens, hein, que je parlais avec quelqu'un, dans sa foi, on parlait de Dieu, ça allait très bien, puis à un moment on était à Pâques, j'ai parlé de la résurrection. J'ai dit, c'est super, on va fêter la résurrection du Christ. Oh, il me dit, vous savez, la résurrection, il n'y croyait pas, alors qu'il avait une foi chrétienne, il n'y croyait pas. C'est-à-dire qu'il n'avait pas reçu la vie nouvelle en lui. malgré tout ce qu'il avait pu faire. Hein. Il avait fait du scoutisme, il a fait tout ça, quoi. Et alors je lui ai annoncé l'évangile. Mais bon, l'obéissance au commandement témoigne de notre vie nouvelle, de notre foi en celui qui nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est une régénération de l'être, cette vie nouvelle, un cœur nouveau. Jérémie nous le déclarait déjà, les prophètes nous en parlaient, Jérémie 31, Ézéchiel aussi en a parlé, versets 33-34, « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. » Et en parlant de cela, Jérémie englobait déjà un peu, pas simplement le peuple d'Israël, mais toutes les nations. « Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi, au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi je serai leur Dieu, eux ils seront mon peuple. » Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Je placerai ma loi au plus profond de leur cœur. Ézéchiel nous dit, je leur donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair par opposition à un cœur de pierre, un cœur dur, un cœur qui peut écouter Dieu et aimer faire sa volonté. Ça, c'est la vie nouvelle que Dieu nous donne. Verset 11. Être rempli de la joie de Jésus. Hier, en conseil, Manu nous a exhortés, encouragés en nous parlant de la joie. De la joie. Philippe, dans sa prédication la semaine dernière, nous disait que certains considéraient que ce n'était pas la joie. Si on se souvient de Henri Salvador, c'est pas la joie. Eh bien oui, dans la vie nouvelle avec le Seigneur, il y a un fondement aussi qui est un don de l'esprit qui est la joie. Être rempli de la joie de Jésus. Cette joie, c'est une qualité, pas seulement une émotion. C'est une qualité enracinée en Dieu lui-même, venant de lui, elle est fruit de l'esprit. Romains 15, verset 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie. Et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. La joie que Jésus nous donne, c'est le fruit de l'amour du Père, vécu dans une relation permanente. Si je sais, si j'ai vécu dans mon cœur, si je vis chaque jour, cet amour extraordinaire de Dieu pour moi, ça ne peut que provoquer de la joie. Et cette joie, elle peut être là avec des larmes, avec des questions, avec des interrogations, avec des épreuves. C'est un fondement, là. C'est un fondement inscrit au fond de moi. La joie. Et il ne faut pas se laisser troubler par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous pouvons penser même, ou imaginer, ce que nous pouvons lire. Il ne faut pas se laisser troubler par cela. Parce que la joie que le Seigneur nous donne, il l'a dit, personne ne pourra vous la ravir, cette joie. Ni la paix, ni la joie. Que Dieu nous donne. Alors cette chose extraordinaire, dans Marc 1, 11, une voix, au moment du baptême de Jésus, quand il sort de l'eau, une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Extraordinaire. Le Père, qui connaît la joie, alors Dieu connaît la joie de toute éternité, je ne fais pas de souci, mais il fait de son fils toute sa joie, comme Jésus a fait du Père toute sa joie. Et comme nous-mêmes, habités par Jésus et par ce salut extraordinaire, par l'amour du Père, nous pouvons recevoir cette joie. Et faire, plus extraordinaire, la joie de Dieu. Est-ce qu'on réalise ça ? Est-ce que je peux, est-ce que j'ai conscience que je peux faire la joie de Dieu parce que je suis fille, je suis frère du grand frère? Faire la joie de Dieu, waouh! On a plutôt souvent conscience qu'on l'attriste ou que, bon, j'agis cela, mais Dieu n'est pas un professeur qui attend nos résultats et qui nous rend des copies chaque fois que ça ne va pas. Ça n'a rien à voir. C'est un père. Et la joie du Père, c'est d'avoir des enfants. Même si parfois, ils marchent de travers. L'amour éternel du Père pour le Fils se manifeste également pour le Fils homme. Il y a cet amour éternel du Père pour le Fils, on le sait, mais il se manifeste également pour le Fils devenu homme. Jésus, homme, a fait la joie du Père et est aimé par le Père. C'est pourquoi personne ne peut nous ravir cette joie intimement liée au salut de Dieu, parce que Dieu nous a adoptés. Et c'est une adoption dite plénière, comme des fils légitimes. C'est-à-dire nous sommes fils de Dieu, point, et filles de Dieu, point, par adoption. Avec cette assurance que nous recevons le même amour que Dieu le Père avait pour le Fils, ce même amour. Nous sommes aimés du même amour. Et donc nous pouvons effectivement pratiquer ces commandements. Verset 12, nous terminons avec le verset 12. « Voici quel est mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé, et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors il s'agit d'un commandement nouveau, nous dira Jean au chapitre 13, 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors en quoi c'est nouveau ? Bon, s'aimer, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton frère, tu aimeras... En quoi c'est nouveau ? Eh bien, nous sommes appelés à nous aimer selon le modèle de Jésus, c'est-à-dire comme lui, en donnant notre vie. Il a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de, vous le savez, plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime, on l'a lu. Il nous demande d'aimer en donnant notre vie, en nous donnant. C'est ça, la nouveauté de l'amour, de cet amour-là. Et donner sa vie, c'est se détourner de soi pour considérer les intérêts de l'autre. Je reprends Philippiens 2, versets 3 à 4. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il y a différentes traductions, mais enfin bon, l'esprit c'est vraiment ça, comme étant plus important que vous. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » L'amour de Dieu, c'est un amour qui s'est donné. Et qui s'est donné à quel prix ? À quel prix ? Alors, jamais nous pourrons nous donner avec ce même prix et cette même qualité. Mais Dieu ne nous demande pas de nous donner comme lui a donné, mais dans la mesure de nos moyens, dans la mesure de ce que nous sommes, dans la mesure surtout de ce que nous avons reçu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Par contre, si je sais ce que j'ai reçu de Dieu, je peux le donner. Je peux faire participer les autres. Et ça, c'est aimer. Et on peut être amené à aimer sans avoir un grand sentiment d'amour. Quand on fait du bien à quelqu'un qui nous a fait une crasse, il n'y a pas forcément un grand amour dedans. Donc, je l'aime. Mais si je réponds au mal par le bien, je montre que j'aime la personne. Vous voyez, ça libère un peu. Hein. On croit que parce que pour aimer l'autre, aimer le prochain, il faut que ça palpite là. Il faut que ça palpite. Non. Mais si j'ai compris que je dois rendre le bien pour le mal, alors oui, j'aime la personne. Et c'est vrai au milieu de nous. Au milieu de nous, à plus forte raison, apprenons à nous donner les uns aux autres. Apprenons à donner ce que nous avons reçu, chacun pour sa part. Et le peuple de Dieu sera fort. En conclusion, à retenir... L'amour de Dieu ne se mérite pas, c'est un rappel de l'Évangile, il se reçoit. D'une pure grâce, cet amour se reçoit. Il se reçoit après, quand je suis devenu chrétienne depuis des années et des années, je suis appelé à recevoir cet amour. Je ne vais pas le mériter. Ce n'est pas parce que j'ai fait de grandes choses que c'est... Non, je le reçois, comme il est. Et c'est cet amour qui me maintient debout. Aimer Dieu avec un cœur nouveau conduit à aimer sa volonté, les deux étant inséparables. Si je n'aime pas trop... Je peux ne pas comprendre ce que Dieu veut, ça c'est une chose, mais ça il n'y a pas de problème. Mais si je reste les bras croisés sans me soucier de ce que Dieu veut, il y a un truc qui n'est pas en place encore. Alors je vous encourage à laisser Dieu sonder votre cœur. L'obéissance est la réponse aimante à l'amour de notre Père. C'est une réponse, hein. Nous obéissons en réponse à l'amour de notre Père qui a livré son Fils en sacrifice pour notre salut et nous a ainsi adoptés pour être frères du Fils bien-aimé. C'est glorieux ça. L'amour de Dieu pour nous est source d'une grande joie. Amen.